Quelques mots de conclusion générale. Alors, je suis un petit peu ennuyé parce que je n'ai pas pu suivre les débats de la matinée, mais je vais prendre grand angle le thème de notre journée, la finance autrement, pourquoi, comment. Grand angle est très vite. Au premier degré, après la terrible crise de 2007-2008, 10 années et quelques centaines de milliards tout de même d'argent public injecté dans le système, on peut dire, me semble-t-il, que l'industrie de la finance s'est globalement rétablie. Les bilans sont assainis, à quelques exceptions près. Le niveau des fonds propres et des réserves a doublé en 10 ans. Doublé. Donc le matelas de sécurité est beaucoup plus solide qu'il l'était. Les banques, surtout les banques européennes et en particulier les banques françaises, dans ces 10 années, il faut quand même leur donner un coup de chapeau, elles ont continué à grandir. Nos 7 grandes banques, en chiffre d'affaires, en PNB, c'est 40% de plus qu'il y a 10 ans. Donc elles ont subi la crise, mais leur croissance ne s'est pas interrompue. Et elles ont fait surtout de la croissance à l'international. Et si on prend des indicateurs de base, est-ce que les banques en Europe, en France en particulier, finance, comme elles doivent le faire, le secteur des entreprises? La réponse est plutôt oui. Le crédit bancaire aux entreprises progresse à 6% l'an, pour la troisième année consécutive. Le crédit bancaire à l'habitat progresse entre 6 et 7% l'an. Bon. L'innovation. Est-ce que nos banques, les banques en particulier, ont bien pris ou commencé à prendre le virage de l'innovation, des nouvelles technologies, des fintech, de la banque à distance? La réponse est oui. La réponse est oui. Et enfin, dernier point, repensons à Jean de Vracieux, qui nous disait il y a 20 ans, la banque en particulier sera la sidérurgie de demain. La casse sociale générale. Bon, soyons prudents pour l'avenir. Mais pour l'instant, les banques ont maintenu un haut niveau de recrutement. Et il y a eu quelques cas particuliers, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu des réductions d'effectifs brutales et sur une base non volontaire. Bon, alors quand on dit tout ça, moi je croise encore beaucoup de banquiers, même retraités que je suis, les banquiers disent, bah, écoutez, surtout nous en France, en Europe en général, mais en France, franchement, on a plutôt bien performé. On a bien tenu le choc. Bon. Et pourtant, quand on a dit tout ça, ça va pas. Ça va pas. On n'est pas satisfait de ce bilan et de cet état de santé. Alors, il faut creuser pourquoi n'est-on pas satisfait. La légitimité, l'intégrité, l'utilité sociale de la finance, des métiers de la finance, est toujours contestée, en tout cas dans l'opinion publique, c'est très clair. C'est très clair. Dans tous les pays, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, en majorité, les citoyens n'aiment pas les acteurs de finance. En majorité, il y a des nuances, on aime mieux son banquier personnel que le banquier en général, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un soutien, une adhésion aux acteurs de la finance de la part de la société, au niveau des citoyens. Des responsables divers. Alors, pourquoi il y a une formule, alors je vais citer personne, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a des banquiers, notamment des grands banquiers en France, qui disaient, qui répétaient, la banque est une industrie comme les autres. La banque est une industrie comme les autres. C'est totalement faux, totalement faux. Depuis qu'il y a des sociétés humaines, le code d'Hammurabi à Babylone, la finance, la banque, le métier de change, de l'assurance, ont été des métiers très particuliers qui de facto exercent des missions d'intérêt général, des missions de service public. Trois grandes missions de service public. L'une d'entre elles, c'est de gérer les moyens de paiement. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de vie en société sans moyens de paiement organisés, contrôlés. La deuxième fonction, c'est de financer le commerce, le développement de l'économie et des entreprises. Et puis la troisième fonction, qui est aussi très importante, sécuriser l'épargne et prendre en charge pour des agents économiques des risques qu'ils ne sont pas en mesure eux-mêmes d'assumer. C'est le métier de l'assurance. Je crois que ça a été vraiment un contresens que de considérer que ces missions d'intérêt général, j'hésite à utiliser le mot service public, mais je pense ces missions de service public ont disparu. Mais non. Ce qui justifie que la finance obéisse à des règles et à des contrôles particuliers, c'est qu'elle exerce des fonctions, des missions d'intérêt général, qui sont celles que je viens d'indiquer. Je pense qu'il faut réhabiliter tout cela, ce qui est une première manière de réconcilier le monde de la finance avec la société, avec les citoyens. Deuxièmement, l'éthique professionnelle dans les métiers de la finance, il ne faut pas généraliser, il y a des gens qui ont une très belle éthique professionnelle et personnelle. Mais l'éthique professionnelle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante. D'abord, il y a une première question, je ne vais pas développer. Comment peut-on expliquer que de manière structurelle, on gagne davantage d'argent dans un métier de finance que dans un métier d'industrie ou même dans un métier de haute technologie? Comment expliquer que dans un grand groupe financier, les opérateurs de marché, par exemple, ou ceux qui font la banque d'investissement soient systématiquement mieux rémunérés que ce sont ceux qui sont dans les systèmes d'information, le contrôle des risques, le droit. Moi, je tourne cette question dans ma tête depuis que j'ai exercé ce métier-là et je ne vois pas de réponse satisfaisante. Je ne vois pas de réponse satisfaisante. Ceci est d'ailleurs assez mal accepté dans le monde de l'entreprise et en particulier dans le monde de l'industrie. Les industriels, au fond d'eux-mêmes, ils se disent « Mais pourquoi est-ce que les banquiers sont mieux rémunérés que nous le sommes, nous ?» Nous qui sommes à l'origine, l'école Paritech a beaucoup insisté là-dessus. Qu'est-ce qui fait avancer les sociétés? C'est l'innovation de rupture. Et l'innovation de rupture, elle est d'abord le fait des ingénieurs, de ceux qui inventent des machines nouvelles, des produits nouveaux, des processus nouveaux. C'est cela qu'on devrait mettre au cœur de l'économie en termes de reconnaissance, y compris au fond financier. Et ça n'est pas le cas. Bon. Je trouve qu'on n'a pas bien traité ce problème, en particulier depuis 2008. Alors, il y a eu des tentatives qui sont parfois méritoire, sympathique. Par exemple, les Néerlandais ont institué dans la finance le serment du banquier. Ça paraît bête, mais moi j'ai prêté serment une fois dans ma vie, quand je suis devenu directeur de la Caisse des dépôts, je peux vous dire que tous les jours, ensuite, j'ai pensé au serment et au terme que j'avais utilisé quand j'ai prêté solennellement serment de bien servir la caisse en toute indépendance, toute intégrité, devant la commission de surveillance. Bon, ça peut être une formule, il y en a d'autres, des codes éthiques, des codes de déontologie, mais clairement, l'éthique collective qui existe dans ces métiers-là n'est pas du meilleur niveau. Et c'est comme ça que les citoyens, que les gens le ressentent. Donc, les fonctions d'intérêt général, l'éthique professionnelle, ajoutons deux phénomènes qui caractérisent tout de même la finance internationale. Un, ce qu'on appelle la finance de l'ombre, 50% du financement de l'économie mondiale relève d'acteurs de procédures qui ne sont ni véritablement régulées ni contrôlées. 50%. Et depuis 2008, il y a eu un creux, en particulier du côté des fonds d'investissement, des hedge funds. L'encours des hedge funds, fin 2017, est supérieur de 50% à ce qu'il était 10 ans avant. Problème non traité. Les régulateurs, les gouvernements, les banques centrales, non. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Mais pour l'essentiel, cette partie dangereuse, à risque, de la finance internationale reste, n'est pas encadrée, n'est pas contrôlée comme elle devrait l'être. Ici ajoute évidemment la finance dite offshore. Bon, je ne dis pas, mais c'est tout de même quelque chose qui interpelle les citoyens, interpelle l'opinion publique. Ces zones grises, ces territoires où de l'argent blanc, gris et noir se croisent avec une difficulté là aussi à réguler et à contrôler les flux. Mais si j'en viens à l'essentiel et si je fais le lien avec la dernière table ronde, il me semble, alors j'en arrive au comment peut-on, Michel Lapierre a montré que l'émergence d'une finance plus responsable, plus durable, était sans doute une des manières de retrouver la légitimité, de montrer l'utilité sociale. Il n'y a pas de vie en société sans finance, c'est aussi simple que ça. Je me souviens d'avoir un jour tenté une comparaison médicale en disant la finance c'est le système sanguin de l'économie. Si l'argent ne circule pas, la vie collective n'existe pas, ne peut pas se développer, se déployer. Bon, donc, comment, sur la question du comment, si, alors je vais un instant, je vais sortir un peu ma condition. Si j'avais à préparer, mais je suis trop vieux pour faire ça maintenant, puis j'en ai plus les compétences, un cours sur la finance dans une grande école, dans une université pour l'an prochain, je pense que je retiendrai le sujet finance et bien commun. Finance et bien commun. Parce que au fond des choses, maintenant l'enjeu principal c'est celui-là. Comment la finance peut-elle, elle le fait déjà en partie, en grande partie, mais comment peut-elle contribuer au, oui, on a l'habitude d'appeler le bien commun, et en particulier prendre en compte les objectifs de développement durable, 17 objectifs des Nations Unies, dans des politiques de financement, de gestion d'épargne, d'assurance, de placement financier, de gestion d'épargne. Comment ? Je crois que ça, d'abord, ça serait une bonne manière de réhabiliter, si je puis dire, relégitimiter pleinement le monde de la finance. Ça serait aussi, et beaucoup de financiers mesurent l'enjeu, il y a là un champ de développement, d'investissement, d'innovation absolument gigantesque. Prenez ce qu'on appelle la finance verte, accompagner la lutte contre le dérèglement climatique, l'adaptation climatique au niveau financier. C'est une masse absolument gigantesque d'investissements qui est devant nous, et donc ça peut être aussi extrêmement mobilisateur, porteur pour la finance elle-même, pour les acteurs de la finance, que de replacer au centre du jeu, si je puis dire, le bien commun et le service du bien commun. Voilà, je n'irai pas au-delà et je ne m'aventurerai pas sur la question « Faut-il rénover le cadre théorique et conceptuel de l'enseignement et de la recherche ?» Non, ça, je suis profondément incompétent et légitime à aller sur ce terrain. Mais il me semble que, surtout avec l'Oriote, tout ce que vous avez fait depuis des années, porter, faire émerger cette thématique, finance et bien commun, finance au service du bien commun, et adosser ce travail académique, d'enseignement, de recherche, sur une bonne maîtrise des fondamentaux, je peux me permettre de dire ça, mais on a... Allez, je fais une parenthèse. J'ai été horrifié par la manière dont le débat à l'initiative, à partir d'une enquête d'Oxfam qui était intéressante, le débat sur le partage de la valeur, c'était consternant. Mais consternant. Le relais par les médias, à partir d'analyses financières et comptables qui ne tiennent pas la route, un étudiant de première année en comptabilité. Donc, la comptabilité, la gestion des risques, le droit, la connaissance des métiers de la finance. Bon, alors ça, c'est votre métier quotidien, je suis absolument convaincu que vous le faites très bien. Mais pour porter cette ambition nouvelle, il faut prendre appui sur un socle de connaissances, de professionnalisme, qui évidemment existe au niveau des chercheurs, au niveau des enseignants, mais je suis obligé de le dire, pas toujours au niveau des étudiants qui sortent des universités, des grandes écoles, et alors pas du tout dans l'univers des médias, où l'ignorance des fondamentaux sur les sujets dont on parle est vertigineuse. Voilà les quelques messages, mon cher Roland, dont je voulais partager avec vous.
Merci beaucoup.